Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, comme vous le savez, sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et bien sûr de la galaxie. Aujourd'hui avec moi pour m'accompagner, c'est mes globetrotteurs préférés. Des mecs, tu ne sais jamais où ils sont avant de les avoir au téléphone. Ils peuvent être à Vegas, à New York, à Cracovie, Varsovie, Singapour, Tombouctou. Bref, c'est mes nomades préférés. Comment allez-vous, Thibaut? Comment tu vas?
Salut Dosti, bonsoir à toutes et à tous. Salut Alex, voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien et je suis pressé de faire ce podcast avec vous. Voilà.
Nickel, content de te retrouver aussi mon petit Tibbs. Et de l'autre côté, Alexis, comment tu vas Alexis?
Moi ça va super bien, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à tous. Thibaut, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait, enfin que je n'étais pas venu pour ce podcast. Je suis content d'être là ce soir, après ces quelques semaines voilà, où je voyageais dans tous les coins du monde pour faire une visite de stade. C'est mon plaisir. Mais voilà, je suis content de revenir pour parler de cette belle ligue avec vous.
Nice, but... Ah, oh, arrête, tu vas me faire pleurer. Bref, je suis content de vous retrouver les gars. Donc aujourd'hui, on va parler de deux matchs particuliers, deux matchs assez décisifs et deux matchs qui comptent. D'un côté, on va voir Monaco-Lyon. Et de l'autre côté, on va parler de Lille-PSG. Donc on va commencer par le premier match, Monaco-Lyon. Donc, pour vous remettre un peu dans le contexte, on a Monaco aujourd'hui qui est troisième avec 30 points, donc qui a 6 points du PSG et qui a 3 points d'avance sur le LOSC qui est quatrième. Et de l'autre côté, on a l'Olympique Lyonnais qui est dernier avec 10 points. Donc, pour la 15e journée du championnat, les deux équipes ont gagné. Donc, Monaco, lui, de son côté, a gagné 2-1 face à Rennes dans un match très compliqué. On a vu Vanderson être exclu. Et de l'autre côté, on a vu Lyon avoir une victoire très impressionnante à domicile en gagnant 3-0, dont un triplé de Lacazette face à Toulouse. Juste pour vous remettre un peu dans le contexte, Monaco-Lyon, c'est des matchs qui ont été très serrés généralement. Donc l'année dernière, Lyon avait battu Monaco au match retour 3-1, tandis que Monaco avait gagné au match aller 2-1. Donc voilà, généralement c'est quand même assez serré, hein. Ça va de l'autre d'un côté comme de l'autre. Et là on retrouve vraiment deux clubs qui sont dans des situations différentes, hein. Donc un qui joue le haut du tableau et l'autre qui joue sa survie. On va commencer les débats tout de suite, hein. Je vais commencer avec mes très chers invités. Moi déjà j'ai envie de vous demander aujourd'hui, est-ce que cette victoire lyonnaise peut leur redonner de l'espoir en disant ça peut être le début d'une nouvelle dynamique, hein. Comme on sait d'ailleurs, Pierre Sage entame son quatrième match. Est-ce qu'aujourd'hui on est sur une nouvelle dynamique lyonnaise? On l'a déjà vu avant, on pensait qu'avec Rennes on était parti sur quelque chose, finalement non. Est-ce que là, après avoir eu cette victoire 3-0, on est sur cette dynamique? Je vais commencer avec toi Tibbs. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que dis-moi tout.
Écoute, ouais, on a tous vu cette victoire lyonnaise très impressionnante. C'était dimanche, il me semble, hein, c'est ça, si je me trompe pas.
C'est ça.
Oui, forcément, quand tu gagnes, c'est forcément surtout pour Lyon, c'est un peu d'oxygène, forcément, car c'est une victoire, ouais, je pense, importante et qui leur qui les place mentalement bien pour ce match-là. Mais je pense qu'il faut prendre ça quand même avec des pincettes quand même. Hein. En face, c'était Toulouse qui venait de jouer un match de coupe il y a 3 jours avant. C'était une équipe vraiment prenable. C'était là, c'était maintenant ou jamais quoi, en gros, pour les Lyonnais. Après, ça donne une bouchée d'air frais, hein, forcément. Et c'est sûr, ça fait vraiment du bien à tous les Lyonnais en général. Ils reviennent à 3 points du non-relégable, donc je pense que c'est Toulouse. Donc oui, c'est un espoir, oui, mais il faut juste, faut continuer, il faut rester dans ce schéma, dans cette victoire, et il faut gagner, il leur faut des points, et il faut sortir absolument de cette zone de relégation, donc ce qui est fort possible maintenant vu qu'ils sont revenus à 3 points. Donc cette victoire, elle fait vraiment du bien, Surtout que moi, j'ai vu le match. Il y a des joueurs qui étaient vraiment très sympas à voir. O'Brien, le jeune derrière, là. Lacazette qui met son triplé, qui confirme enfin qu'il peut mettre des buts. D'ailleurs, j'ai un petit fun fact là-dessus sur RMC. J'ai écouté RMC. Il y a un. Donc, ils lancent des paris, toujours RMC, à la fin des podcasts. Et il dit à un commentateur, il lui demande, oui, alors ton pronostic. Et lui, il dit, bah, doubler de Lacazette. Et du coup, bah, tout le monde rigolait sur le plateau. Et bah, du coup, bah, il en a mis trois, tu vois.
Ah
Mais
bah.
pour dire que, voilà, il dit que, bah, qu'est-ce que tu joues ce week-end? Bah, je joue le doublé de Lacazette. Et bah, de Lacazette, il a marqué un doublé. Donc voilà. Félicitations à Lyon. Donc espoir, mais oui, attention. On les attendra mieux sur la deuxième partie de saison. Je pense pas qu'on leur en voudra s'ils perdent ce match-là, parce qu'en face, on a quand même Monaco. Donc voilà, j'espère qu'ils ne se réveillent pas trop tard, les Lyonnais, pour pouvoir sortir de la zone de relégation. Je pense pas, vu qu'il n'y a que 3 points. Donc oui, espoir et bouchée d'air frais. Tant mieux.
Ouais, et puis c'est plutôt pas mal, hein, Lacazette qui marque sans essayer de rechercher un pénalty, pour une fois qu'il essaye de jouer son rôle d'attaquant et de marquer dans
Ah,
le
mais
jeu.
complètement,
Donc,
oui. Son match est complet. Il était là au bon moment où il fallait les mettre. Et il les a
ouais.
mises, tant mieux pour lui. Et pour nous.
Ça, c'était ma petite pique contre lui, ça.
Oui, mais parce qu'on attend qu'il porte, on l'attend beaucoup de lui aussi, c'est sûr. On attend
Bah
qu'il
ouais.
porte cette équipe lyonnaise, quoi. Voilà.
Bah, c'est normal, c'est normal. Et toi, du coup, Alexis, tu es à peu près du même avis, dans le sens où, voilà, très bon match, mais ça reste quand même un Toulouse qui était assez faible, pas trop s'emballer. Pour l'instant, c'est le début de rien. Tu es du même avis que Thibaut ou non? Toi, tu penses qu'il y a un truc qui est en train de se créer là?
Non, je suis plus ou moins du même avis parce que, il faut le dire, c'était une belle victoire 3-0. C'est assez rare en Ligue 1, on le sait, surtout pour Lyon. Mais il faut dire aussi qu'il n'y avait pas de jeu, en fait. Enfin, il n'y avait pas de jeu. Toutes leurs actions franches, tous les buts de Lyon, c'était sur coup de pied arrêté. C'était pas une construction d'une équipe qui partait de loin et qui voulait aller marquer le but. C'est juste. Voilà, ils avaient juste la rage. Ils étaient là où il fallait. Il y a eu quelques cafouillages, quelques doubles crochets rentrant, etc., qui a bien marché cette fois. Mais je pense que ça a bon espoir sur le fait que Sage a trouvé la solution pour chercher les points, pour chercher les victoires. Et un espoir là-dessus, oui, parce que enfin ils savent ce sur quoi ils sont bons. Donc avec une bonne défense à trois piliers derrière, avec O'Brien qui est monstrueux. Et après, ils jouaient jouer les phases arrêtées. Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont pas aller créer le plus beau foot d'Europe en ce moment, surtout avec Pierre qui est un petit peu fatigué peut-être ces derniers temps, qui est moins en confiance, je veux dire. Mais voilà, c'est bon. Ouais.
Ok. Bah, il y a deux points intéressants hein, sur lesquels que tu as abordé. On reviendra sur Cherki un peu après. Mais c'est vrai qu'il y a eu un changement de formation chez l'Olympique Lyonnais. On est passé d'un 4-3-3 à un 3-4-3. Est-ce que c'est la formation aujourd'hui qui va le mieux correspondre au jeu, lyonnais qui correspond mieux aux caractéristiques. Hein. En l'occurrence, ce dernier match, on avait Cherki, Lacazette et Nuama devant, assez resserré. On avait une ligne de 4 avec Tagliafico, Cacré, Tolisso et Mata. Et enfin en défense, une défense à 3, Caleta-Char, Lovren, O'Brien. Et enfin Lopez au cage. D'ailleurs, Lopez qui a arrêté un penalty, je crois que ça faisait un an et demi ou quelque chose comme ça. Qu'il n'avait pas arrêté un penalty au Groupama Stadium, donc plutôt pas mal. Est-ce que toi, Thibaut, tu penses que ce changement de formation, ce 3-4-3, correspond mieux à Lyon que le 4-3-3 habituel?
Oh, oui, complètement, complètement. Moi, je pense qu'ils sont un peu meilleurs avec ce sapin de Noël là, comme ça, comment on peut appeler cette composition. Trois derrière, mais en fait, ça c'est mieux parce que déjà Caleta-Char, il n'avait pas joué tous les matchs d'avant. Enfin, il en avait joué quelques-uns,
C'est
il
vrai.
était blessé. Donc son retour, je pense que à côté Caleta-Char, Lovren, O'Brien, je pense que ça fait du bien là. Ces trois mecs solides, donc je pense que ça leur fait du bien derrière, avoir les trois là, Lovren expérience, O'Brien le jeune, Caleta-Char confirmé. Voilà, ils n'ont pas pris de but, Lopez qui sort un penalty, enfin. Clinton et Tagliafico, ça les libère aussi un petit peu, ça leur donne un peu de l'oxygène sur les côtés. Donc voilà, ça c'est peut-être un peu mieux pour eux. Tolisso, Kakré au milieu, qui peuvent donner à Nwama, Cherki qui descend un peu et Lacazette qui reste tout seul devant pour planter. Je pense que c'est cette compo-là qui leur faut. Après, à voir sur les prochains matchs, hein, mais il y a qui peut rentrer là. Il y a du Koumbédi, il y a du Maitland Niles aussi que tu peux mettre.
T'as le petit Morera aussi.
Ouais, Enrique, Morera, Kadewere, ouais. Non, mais pour moi, Le Penant qui est absent, ok, ouais. Non, non, c'est ça. Pour moi, en vrai, ça peut être l'équipe type. Hein. Après, c'est mon avis, mais je pense que cette composition-là en sympa de Noël, ça les fait. Ton jeu, ça rapproche un jeu dans l'axe et pour éviter les côtés. Et du coup, ça laisse un peu plus d'espace à Tagliafico et Clinton Mata, quoi. Et ça libère un peu Bissou et Cacré. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Et toi, Alex, tu le mentionnais, hein, je vais t'enchaîner, on va enchaîner sur Cherki. Aujourd'hui, Cherki, alors moi, c'est un joueur que j'ai adoré l'année dernière, enfin, cette année, beaucoup moins, parce que je trouve que c'est un joueur qui est dans un état mental qui n'est pas hyper positif, enfin, un joueur qui est très nonchalant sur le terrain. Alors techniquement, tu sens qu'il est facile, mais il ne t'apporte pas ce dont tu as besoin. Toi, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Cherki, ça peut être la solution plus ou alors la malédiction de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que c'est le joueur clé ou c'est le joueur qu'il faut mettre sur le banc parce qu'aujourd'hui, il ne s'intègre pas dans cette logique lyonnaise de « on se bat pour la relégation » ?
Ouais, justement, pour ces prochains mois, je pense que c'est complètement une malédiction, le cas Cherki. Donc ça ne peut pas être une solution parce que ce n'est pas ce que le Lyon a besoin à ce moment. Ils ont besoin de vibrer, de savoir que chacun sur le terrain va se battre pour récupérer le ballon, pour pousser le ballon plus haut sur le terrain, pour aller jusqu'à pousser le ballon dans le but. Et Cherki, comme tu disais, il est toujours nonchalant. Il est toujours dans le fait de savoir qu'il est meilleur techniquement que ses confrères, que ses adversaires, etc. Il va toujours vouloir faire le dribble de plus pour montrer en fait son génie. Et sur Vini, il l'a, je suis complètement d'accord. Mais voilà, c'est pas ce dont Lyon a besoin aujourd'hui pour se battre, pour éviter la relégation. Et c'est seulement les qui seront plus ou moins sauvés que Cherki, je pense, pourra faire jouer de son talent pour remonter plus vers la 10e, 8e place un jour.
Ok. Et bah, du coup, en face, on a quand même, c'est pas rien, hein, l'AS Monaco. L'AS Monaco qui est, on peut dire, en ce moment sur une belle série. Depuis sa défaite contre le PSG, hein, donc quand même grosse défaite contre le PSG, mais depuis ils sont quand même bien repris. Monaco, c'est une équipe qui marque quand même beaucoup de buts. Bon, certes contre Rennes, ils gagnent 2-1, mais ils étaient quand même à 10. Ils gagnent contre Montpellier 2-0 juste avant. Enfin, bref, Monaco, c'est vraiment l'équipe qui marque. Ils ont un goal average de plus 11 actuellement, l'une des meilleures attaques du championnat français. Est-ce qu'il faut avoir peur pour cet Olympique Lyonnais face à ce Monaco? Est-ce qu'on n'a pas en face de nous un Monaco, un Monaco qui va écraser l'Olympique Lyonnais si avec son équipe type, hein? Donc juste pour vous rappeler un peu l'équipe monégasque, hein, donc forcément Vanderson sera absent pour ce match parce qu'il a eu un carton rouge, hein, donc deux cartons jaunes qui sont symbolisés en carton rouge. Mais sinon on a quand même une équipe qui est assez équilibrée. On a eu le retour de Fofana notamment face à Rennes. Devant, on a ce trio Minamino, Golovin, Balogun qui a été reconduit. On a toujours Ben Yedder qui est là en super sub. Ils sont passés à une défense à 3 aussi, parce que le match d'avant, ils avaient une défense à 4. Là, c'est une défense à 3. C'était une défense à 3 avec Zingo, Zakaria et Salisso. Donc, Tibbs, j'ai envie de savoir, est-ce qu'on doit avoir peur pour cette équipe lyonnaise face à ce Monaco?
J'ai envie de te dire, j'ai envie de te dire oui, mais bon, Monaco, c'est oui, c'est assez sérieux, ça gagne, donc je ne sais pas ce qu'on peut reprocher à cette équipe. C'est deux buts minimum à chaque fois en fait, Monaco, hein. Ils n'ont pas de coupe à jouer, c'est solide pour moi. Ils perdent en fait, ils perdent contre les gros. Généralement, j'ai vu PSG, Nice, Lille, mais après c'est cohérent. Enfin, ça joue bien. Moi, j'aime bien les voir jouer, Minamino, Golovin, Ben Yedder, Balogun. Ils ont de quoi faire devant. Sur ce match-là, je ne pense pas que Golovin, il a pris un jaune, donc je crois qu'il va être suspendu. Vanderson, rouge, comme tu as dit, ouais. Après, tu as Ben Seguir qui est blessé, Caio Henrique, pareil. Donc, en attaque, je pense qu'on va partir sur une attaque, à mon avis, Ben Yedder, Balogun, peut-être. Je ne sais pas s'il va mettre les deux. On aura peut-être une composition qui sera un peu... Bon. Qui sera un peu nouvelle, tout simplement. Donc à voir. Mais voilà, le troisième contre le faux dernier, duel, pour ma part, à l'avantage de Monaco, hein, la deuxième meilleure attaque du championnat, comme tu as dit, contre l'avant-dernière pire défense de Ligue 1. Donc j'espère qu'ils ne vont pas prendre l'eau et qu'ils ne seront pas dans l'euphorie de la victoire. Et voilà, faudra que les Lyonnais montrent aussi les dents s'ils ne veulent pas se faire... comment dire, se faire déborder par cette attaque. Parce que voilà, il marque deux buts minimum à chaque match. L'ASM à domicile, c'est quatre victoires de suite et deux buts minimum, comme j'ai dit, dans chaque match. Donc, ils auront fort à faire. Ben Yedder contre Lacazette, ça donne envie de regarder le match. Voilà, donc c'est un match qui risque d'être intéressant. Après, si Lyon joue avec la même envie que contre Toulouse, je demande à voir, voilà. Je demande à voir ce que ça peut faire. Voilà, mais après je vois quand même Monaco, quand même gagner. Et voilà, faudra pas juger les Lyonnais sur ce match-là, je pense. Et je pense que s'ils arrivent à obtenir un match nul, ça sera déjà très bien. Voilà.
Ok. Du coup, match du vendredi soir. Toi, Alexis, tes pronos pour ce match, ça donne quoi?
Moi, je vois un délit. Je m'explique. Comme disait Thibaut à la fin, Monaco, ouais, ils sont ultra chauds en ce moment. Mais Lyon, ils ont la rage depuis la semaine dernière. Je pense que ça va se ressentir sur le terrain. Et vu que Monaco n'a vraiment jamais de vraie dynamique au fil des matchs, à ma vie, et qu'ils perdent toujours contre les grosses équipes, et peur pour eux que Lyon se retrouvera comme une grosse équipe, comme la grosse équipe qu'ils devraient être, pile poil demain soir, et qu'ils vont sortir le match de leur saison qui va vraiment réellement lancer leur saison. Bon, après, ce sera avec un match nul, mais ce sera déjà bien, ce sera déjà un beau résultat pour eux.
Ok, et toi, Tibbs, tes pronos pour
Moi,
ce match?
je vois comme, bon, je vois déjà un match avec des buts. Moi, je vais quand même rester sur Monaco parce que devant, tu as quand même des certitudes et tu as quand même une attaque qui, même sans Golovin, je pense qu'ils vont quand même avoir des ballons devant avec Minamino, Balogun, Ben Yedder. Moi, je vois 2-1 Monaco. Voilà, un but de Ben Yedder et pourquoi pas un but de Fofana ou un but d'un défenseur. Ouais.
Ok, ok,
Voilà,
ok.
2-1 Monaco, je vois pas quand même Lyon. Après, peut-être, mais ouais, je vois 2-1. 2-1. Je vais pas me lancer sur Lyon nul, mais ouais, 2-1 Monaco.
Ouais, c'est vrai que quand même Monaco, ils ont, enfin Lyon, ils ont pas de chance parce qu'ils ont un calendrier qui est pas facile en cette fin d'année. Hein. Ils se sont quand même tapés Lille, Lens. Il y a eu Toulouse, là Monaco. Après derrière, ils se tapent
Nantes,
Nantes
puis ça
toute
avec Nantes.
l'année. Ouais, donc c'est pas facile quand même. Mais ouais, moi aussi je vais partir sur Monaco. Je pense que Monaco, ils ont quand même. C'est important pour eux qu'ils restent accrochés au wagon de tête, sachant qu'ils ne jouent aucune compétition européenne cette année. Donc ils sont assez revanchards. Donc moi je vois bien Monaco gagner. J'irais un 3-1. Ouais, 3-1 pour Monaco.
Ouais. Mais
Même
je sais pas du
avec
tout.
l'absence de Golovin et Vanderson, quoi.
Parce que ouais, ils annoncent ils mettent carton jaune Golovin, mais je sais pas, normalement il est censé ne pas être là. Hein.
Golovin, il est suspendu. Golovin est voilà. suspendu. Quand j'ai vérifié sur le site
donc,
de la Ligue.
Donc, à voir l'activité en attaque, comment ils vont gérer ça. Comment ils vont gérer ça, les Monégasques, sans leur mettre à jouer, quoi, en gros, devant Ben Yedder, Balogun. À voir comment les ballons arrivent sur eux aussi.
Ok. Ok, ok. Nickel, bon bah on va passer dès à présent au match suivant. Donc le match suivant, comme vous le savez, c'est le match du dimanche soir, le match prime time. Donc Lille-PSG, pareil, je vous remets dans le contexte. Donc on a un PSG qui est actuellement premier avec 36 points, donc qui a 4 points d'avance sur le GC Nice qui est deuxième, qui a 9 points d'avance sur le LOSC qui est quatrième actuellement avec 27 points, donc à 3 points de Monaco. Donc le match, pour la 15e journée, le PSG avait gagné 2-1 face au FC Nantes, tandis que le LOSC avait fait match nul face à Clermont, notamment avec un but refusé à Cabella pour une faute qui était assez litigieux, mais au final, ça finit sur 0-0. Juste pour vous mettre un peu, on va dire, dans le contexte du match entre Lille et PSG. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une certaine domination du PSG. Hein. On a vu l'année dernière, ils ont quand même gagné 4-3 à domicile. Ou encore il y a 2 ans, on avait vu des 7-1, 5-1, enfin bref.
7-1, 5-1, enfin c'est des scores de...
Ouais, c'est des scores de tennis. Je sais tes matchs.
Excusez-moi, supporter à Lillois.
Non, faut le dire. Voilà, c'est quand même un match entre un match de top, hein, de top du championnat, même si les deux équipes sont pas forcément dans des dynamiques qui sont complètement similaires, hein, parce que on a quand même un PSG qui est sur 8 victoires de suite, notamment 10 matchs sans défaite avec au moins 3 buts par match sur les 8 derniers matchs, hein, ce qui est quand même une stat assez impressionnante. De l'autre côté, on a un Lille qui est un peu, alors qui tient le wagon de tête, mais qui a un peu du mal à suivre le rythme.
Quatre matchs en défaite, Lille.
Quatre matchs en défaite quand même, et qui prend quand même peu de buts à domicile, hein, que 3 buts à domicile. Donc voilà, Lille ne perd pas, Lille fait beaucoup de nuls, mais Lille a aussi du mal à gagner. Je vais commencer avec toi Alex, dans l'analyse de ce match. Est-ce que, parce que si le PSG gagne, le PSG sera champion d'hiver. Est-ce que tu trouves que ce PSG, hein, qui a notamment gagné en Ligue des Champions, bah, il a imposé son rythme à la Ligue 1 et aujourd'hui, on doit s'attendre à un match où il sera inarrêtable et il va écraser le LOSC, sachant que c'est un match à l'extérieur pour le PSG qui est pas forcément top à l'extérieur. Mais toi, qu'est-ce que tu attends de ce match? Comment tu penses que ça va se passer?
Justement, tu parlais du fait que si Paris gagne, ils sont champions d'automne, enfin d'hiver. Mais je ne sais pas si c'est une vraie motivation, parce que dans tous les cas, ils le seront. Que ce soit ce week-end ou le week-end prochain, il y a vraiment 0,1% de chance qu'ils ne soient pas là. Parce que oui, voilà. En fait, ce n'est pas forcément qu'ils mettent le rythme sur la Ligue 1, c'est juste que voilà, ils vont à leur vitesse, ils enchaînent les victoires, ils font ce qu'ils font mieux, sans forcément s'occuper des autres équipes. La preuve, il y a 5 ou 6 journées, ils étaient les 8e comme ça. Et ils ont repris la tête assez facilement. Ils ont enchaîné les victoires, mais ils ont joué contre le problème. Ils ont joué en Ligue des Champions cette semaine contre Dortmund. C'était un gros match assez fatigant, je pense, pour eux. Fatigant via la ferveur Ils partent de Dortmund.
Sigurdal Idunpark.
Voilà.
Idunpark.
Sigurdal Idunpark.
Ouais.
Et le fait que, bah, je pense, en fin de match, je ne les ai pas trouvés très rageurs, très. Enfin, ils n'étaient pas poussés par la victoire. Ils sont qualifiés par méga. Hein, bah.
Oh, t'es dur.
Toujours, c'est dur contre les meilleurs.
Ouais.
Mais ouais, je pense que ça peut leur faire défaut, parce que chez Lille, c'est une équipe qui est de four, là. faut le dire quand même. Ok, c'est pas une équipe excitante, mais ils sont là pour faire des scores. Je vais aller voir sur leurs 22 derniers matchs, donc une compétition confondue avec la Ligue Europa, ils ont gagné 8 fois 2-0. Donc, c'est une équipe, je pense, qui sait gérer ces matchs. Ils marquent leur deux buts, ils ne freinent pas de but, et voilà, et le job est fait. Pareil, il y a seulement 3 matchs pour lesquels ils ont marqué 0 buts. Et c'est à chaque fois contre des équipes très, très fermées, donc clairement, donc, on le sait avant-dernier. Ils jouent sa survie et ils jouent peut-être le 0-0 sur les gros matchs contre les gros équipes. Et contre Classiviste, je pense espérer la même chose en Ligue Europa. Et bon, une troisième, c'était contre Marseille, mais ça compte pas. C'est une équipe spéciale, je pense.
Ok, toi, tu partages cet avis, Thibaut. Donc voilà, un PSG qui va arriver après un match avec des champions, sans doute fatigué. Donc qui a été aussi très, on va dire, qui mentalement aussi prend beaucoup d'énergie. Est-ce que tu partages cet avis?
Clairement pas. Non, bon, même bien. Si il est vrai qu'on a vibré, voilà. Mais moi j'ai vu une équipe de Paris quand même assez conquérante sur le ballon, voilà, mercredi soir. En même temps, Dortmund, il n'y avait pas grand chose. Si on doit en mettre 4, c'est juste ce qu'on n'est pas assez réaliste. Mais normalement, il doit y avoir 4-0 en première mi-temps. Hein. Voilà,
Je suis d'accord.
Sans vous manquer de respect à Dortmund. Mais voilà, non, si on refait le match, je pense qu'il y a 4-0 facile à la mi-temps. Poteau de Barcola, Mbappé qui doit la mettre au fond s'il ne fait pas son petit plat du pied là. Ensuite, il y a quoi d'autre? Pareil, Kolo Muani, enfin, j'en passe chez les juges. Les expected goals, je ne vais pas les compter parce que bon, ça serait indécent. Mais j'ai vu, moi ça me conforte. Parce qu'au bout d'un moment, quand ça va rentrer, je pense que ça va faire très mal. Et faudra, j'aimerais pas être l'équipe qui sera en face. Donc j'espère que ça sera pas Lille. Mais non, parce que bon, là, je pense qu'ils vont faire ce match-là tranquillement, sereinement. Ils sont qualifiés. Donc je pense qu'ils entament ce match-là plutôt sereinement. Alors peut-être un peu fatigué, mais je pense qu'ils ont l'effectif pour faire tourner à Lille. Lille, c'est toujours une équipe qu'on aime bien jouer à l'extérieur, même si à l'extérieur on est moins fort, voilà, tout simplement. Ouais. Mais je pense que non, ça va être un match où il va y avoir des buts. Voilà, après je pense qu'il va tourner. J'aimerais bien, moi, avoir un peu Asensio qui revient de blessure, faire souffler un peu Kangin aussi, qui j'ai trouvé un peu juste mercredi soir. Voilà, Ugarte aussi, qui pense qu'il va commencer titulaire, sachant qu'il a commencé remplaçant mercredi. Donc ça va, on aura un peu de 109, on va dire. Je pense dimanche soir. Je pense qu'il va faire tourner un petit peu quand même, sachant que ils sont libérés, quoi. Ils sont qualifiés deuxième. Voilà, ils voulaient la première place, mais ça sera deuxième. C'est pas grave. Donc voilà, on pense au championnat et je pense qu'ils seront champions d'automne quoi qu'il arrive. Voilà, sans forcer et sans problématique. Donc ça, c'est déjà très bien et sans blesser. Voilà, sans vraiment gros, gros blessé.
Voilà. Ok. Parce que c'est vrai que quand je regardais un peu, j'ai regardé un peu les stats du PSG, que ce soit en termes de but, à l'extérieur, à domicile.
Excuse-moi, Desti, je te coupe. Après, il faut juste que devant ça soit plus des... Ce qui manque au PSG cette année, c'est que ça soit des tueurs devant le but, quoi. Des tueurs.
Justement, c'est ce point-là que je voulais aborder, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu quand même sur une, on va dire, Mbappé-dépendance. Après, qui ne peut pas être dépendant d'Mbappé? On parle de l'un des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, Mbappé, c'est... Que ce soit l'un des meilleurs joueurs du monde ou qu'il y ait Mbappé-dépendance?
Ça, on est tous d'accord, mais qu'il y ait une Kylian Mbappé-dépendance, je ne suis pas sûr.
Je suis désolé. Enfin, quand on regarde les stats, en tout cas, aujourd'hui, on a Mbappé qui a 15 buts. Le joueur qui vient après, c'est Randal Kolo Muani qui a 4 buts. Vitinha 4 buts, Gonzalo Ramos 3 buts, Hakimi 3 buts, Warren Zaïre-Emery 2 buts. Enfin, l'écart entre le deuxième buteur et le premier buteur, il est quand même assez énorme.
Mais qui tire les pénalties?
Ouais, mais même, il n'y a pas eu non plus. Enfin, là, je ne les ai pas de tête, mais il n'y a pas eu non plus énormément de pénalties non plus.
Ouais, mais bon, ça, je pense qu'il doit en avoir 3-4 au moins, facile, tu vois ce que je veux dire? Après, voilà,
même si t'en en retires 4, ça te fait toujours un mec qui a 11-10 buts. Le
c'est
deuxième,
sûr,
c'est Kolo Muani qui a 4 buts.
C'est sûr qu'il vaut mieux avoir Kix dans son équipe que l'avoir sur le banc de touche. Ça, c'est sûr, on est
c'est ça.
Voilà, non, mais bon, après.
Toi, Alexis, en penses quoi? Tu penses qu'il y a une Kylian Mbappé dépendance au PSG ou non, ça va, c'est juste que les buts sont répartis. Alors, il n'y en a pas un qui va sortir du lot, mais les buts sont répartis parmi tout l'effectif.
Bizarrement, je dirais qu'il n'y a pas tant de Mbappé dépendance dans la réalité des matchs. Parce que, ok, Mbappé marque beaucoup de buts, mais c'est pas lui qui va se faire gagner les gros matchs. Je veux dire. Par exemple, cette semaine contre Dortmund, bon, il a marqué un but qui a été refusé pour hors-jeu. Il a eu quelques actions très nettes qu'il doit marquer, mais à la fin, en fait, c'est pas lui qui sauve Paris en égalisant. Donc voilà, pour les gros matchs, à chaque fois, il y a toujours voilà, un Kanginli, un Kolobouyi, un Zaïre-Emery qui ressort et qui fait gagner les gros matchs. Mbappé, il marque beaucoup de buts sur les matchs pas plus simple, mais avec moins d'enjeux peut-être. Donc, ouais, sur les matchs qui comptent, il n'y a pas de dépendance.
Un peu, parce que quand on regarde quand même les buts qu'il met, contre Le Havre, c'est lui qui met le premier but, après on a un deuxième but de Le Havre. C'est lui qui met le premier but. Ouais, c'est en Ligue 1, mais contre Reims, c'est lui qui met les trois buts. On a quoi d'autre contre Brest, il marque aussi, il me semble. Ouais, il met deux buts contre Brest. Il met notamment le troisième but à la 89e minute. En début d'année contre Toulouse, c'est lui qui met le but de l'égalité, qui met le premier but, donc, qui était d'ailleurs à pénalty.
Je savais que ma logique n'allait pas.
Non, mais en fait, moi, c'est plus tous les deux, puisque vous dites à peu près les mêmes choses. Et c'est vrai que dire qu'il n'y ait pas de Mbappé dépendance, alors je comprends, parce que dans le jeu, il y a des joueurs qui apportent aussi beaucoup. Il y a un Dembélé qui est quand même meilleur passeur de Ligue 1. On a d'autres joueurs qui marquent, que ce soit des Kolo Muani, que ce soit des Ramos, des Lee. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai mal à me dire que le PSG actuel pourrait vivre sans Mbappé, ou est-ce que le PSG actuel pourrait battre Lille le week-end prochain sans Mbappé? C'est ça, moi, la question. C'est possible.
C'est de voir ça. C'est de voir si le PSG arrive à jouer sans lui. Je pense que oui, il y a quand même un reste d'équipe comparé aux autres années précédemment, où vraiment il y avait une vraie dépendance, pendant le V1, il y avait une équipe, en gros. Mais là, il y a une vraie équipe derrière qui fait équipe, quand même. Bien.
Parce qu'au-delà de ça, tu le vois moins quand même sur le terrain. Il est moins, il marque, d'accord. Ça, on est tous d'accord, c'est très bien. Mais il est moins impactant, je trouve, C'est vrai que tu le vois moins, un peu comme un Messi, tu vois, à l'instar, tu le vois pas, puis d'un coup, il va te sortir ce geste, ce geste de génie qui va faire un dribble, il va dribbler le gardien, il va te faire une, tu vois ce que je veux dire, une frappe.
Okay.
Et en fait c'est ça, il est moins impactant, tu le vois moins dans un match qu'il y a deux ans, un an et demi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est juste ça qu'on peut lui reprocher, ne pas être assez dans le jeu peut-être, et être parfois un peu, c'est un mot fort quand même, je dirais pas fantomatique, de se montrer un peu, aller chercher des balles. Tu vois, il est plus peut-être dans l'attente de recevoir les ballons. C'est ce que je pense. Hein, plutôt que de les demander, quoi. Aller les chercher, aller les demander, tu vois ce que je veux dire. Après, peut-être qu'il se préserve aussi. Voilà, il a peut-être cette intelligence de se préserver et d'être là au moment où il faut être là.
Voilà.
Okay.
Je pense que justement aussi, il choisit et il attend ce moment.
Ok. Et du coup, vous pensez que Lille va, parce qu'on l'a vu, hein, beaucoup d'équipes ont proposé des compositions spéciales PSG, notamment avec des défenses beaucoup plus chargées. On sait que Lille a plutôt tendance à se présenter en 4-2-3-1. Est-ce que vous, à l'heure actuelle, alors je vais vous redonner. Notamment, on va prendre le dernier match de Lille et je vais vous redonner une compo comme ça au moins vous aurez.
Clermont, ouais, Clermont,
Voilà,
Clermont
contre
Lille.
Clermont. Donc, contre Clermont, il s'était présenté en 4-2-3-1 avec voilà, une défense un peu habituelle qui est Yoro et Ribeiro en défense centrale. Gudmundsson aussi, qu'on retrouve beaucoup à gauche et Santos à droite. Bentaleb André, pareil, c'est quelque chose, c'est un milieu central qui bouge assez peu.
Classique, ouais,
Voilà.
classique.
Et on avait une ligne de trois avec notamment Cabella, Gomez et Zegrova. Pareil aussi, hein. C'est vrai que souvent on voit Yazici jouer à la place aussi de Gomez. Et devant, on avait un David. Est-ce que vous vous attendez à une compo identique? C'est-à-dire que Fonseca va se dire, on a décidé de jouer notre jeu, on va jouer notre jeu, peut-être en l'adaptant, voilà, un peu pour répondre au PSG. Ou vous attendez à une compo complètement différente avec par exemple cinq défenseurs. Ouais, avec cinq défenseurs ou des latéraux qui joueraient plus bas, dites-moi.
C'est simple, c'est simple. Qui tu veux faire rentrer concrètement dans cette équipe-là? En vrai, qui tu veux faire
Bah,
rentrer?
t'as du
Nicholson?
Ismaili, t'as du Boadi, par exemple.
T'as du. T'as Ismaili, c'est ça. Mais ils font pas beaucoup de changements au final, hein. Quand tu regardes, ils changent que trois mecs dans le match. Mais oui, Yazici, Ismaili, Boadi, oui, tu peux faire rentrer à la rigueur Yazici à la place. Et Umtiti, tu peux peut-être mettre en défense pour amener un peu d'expérience, mais
Mais
après,
toi, tu t'attends à ce qu'ils gardent la même compo ou que la compo change?
ça peut changer, mais ce, je sais pas, peut-être qu'il peut passer en 5 défenseurs, un peu à la façon lyonnaise, tu vois, comme on a dit tout à l'heure, en sapin là, en 3 et 2 sur les côtés, ça serait peut-être qu'il jouerait mieux aussi, hein, Lille. Hein. Ouais, tu. Franchement, Haraldsson aussi, moi j'aime bien. J'aime bien aussi. Le petit Argentin, là, Miramon, aussi, qui peut être pas mal. Voilà. Yazici, peut-être à la place de en titulaire, mais bon.
Et
Tu
toi,
penses que.
Alex?
Moi, je suis pas vraiment d'accord, parce que je pense que Lille, depuis quelques semaines, ils ont trouvé une solution, enfin, la sauce a pris en gros avec leur équipe cette année. Et c'est une équipe, justement, leur jeu tourne autour de la défense et de bien défendre et de bien faire remonter le ballon en contre-attaque, etc. Et ils sont très forts là-dessus. Leur défense, elle marche bien. Et je vois pas pourquoi ils changeraient. Ok, c'est Paris, ils font peur, c'est un ogre, etc. Mais voilà, c'est quand même la deuxième meilleure défense de Ligue 1. Ils sont pris seulement 11 buts et ils savent faire, ils savent blinder derrière, même à 4. Et après, avoir les deux défensifs au milieu qui reconduisent le ballon pour remonter. Et voilà, et t'as Rémy, le centre, qui est là au milieu pour distribuer les ballons vers les attaquants pour utiliser leur vitesse avec David et Cavallero, par exemple, qui sont très très rapides. Et voilà, je pense qu'ils vont rester comme ça, ils vont rester avec cette compo-là et qu'ils vont jouer en contre.
Quand
Surtout
tu vois,
que. Excusez-moi, continuez.
juste pour
Laisse-moi.
préciser ça, Thibaut, et je te laisse prendre la parole.
Vas-y.
Lille, c'est une équipe qui a pris que 3 buts à domicile sur 7 matchs.
Ouais. Ouais, non, ils sont, comme il disait Alex, ils sont plutôt solides, ces rêves. Donc c'est pour ça que qu'est-ce que tu peux changer dans la compo de Lille? Ben, je dirais pas grand-chose. Tu vois, par exemple, je regarde le match juste d'avant contre avant Clermont, là, ils ont joué Metz. Ils ont changé que Yazici, tu vois, en 10. Mais sinon, c'était exactement quasiment la même équipe. Et ils en ont mis deux à Metz. Je pense qu'ils ont pas forcé, hein, je pense, à ce moment-là. Mais voilà, après. C'est vrai qu'il ne change pas beaucoup. Fonseca ne change pas beaucoup son effectif, généralement, quand il trouve son rythme de croisière. Il change un ou deux, pas plus, tu vois, mais il garde cette même ossature à chaque fois. Donc, je pense qu'on va avoir du Lille comme on voit depuis le début de saison. Hein. Voilà.
Ok, d'accord. Bon, bah, du coup, ça devrait être un match plutôt sympa avec, du coup, deux équipes qui vont garder bah, leurs idéaux, leurs confrontations, leurs idéaux et leur formation. Et du côté du PSG, voilà, on sait que il y a eu un match de Ligue des Champions cette semaine. On sait que Luis Enrique, voilà, il fait quand même attention aux joueurs de pas trop les surcharger. Alors il y a certains titulaires qu'on voit assez souvent quand ils sont pas blessés. Est-ce que vous, quel type de formation vous vous attendez pour justement ce match-ci? Thibaut,
ben moi, quelle formation j'attends? Tu veux me dire tu veux dire Lille, de l'équipe de Lille, hein,
du PSG, composition.
Ouais, bah alors comme je t'ai dit tout à l'heure, je vois bien comment Asensio rentrer à la place de Kangin Lee. Moi, je verrais Asensio devant, Mbappé, Barcola aussi, je pense. Et derrière Ugarte, Vitinha et allez peut-être Ruiz ou Soler pour faire souffler un peu Zahir ou même carrément ouais voilà Ugarte, Zahir, Vitinha comme à la fin à Dortmund et derrière je pense Marquinhos, le Viking, Skriniar avec Hakimi et peut-être Mukiele peut-être sûrement qui va peut-être faire son entrée. Voilà la place d'Hernandez pour le faire souffler et dans les buts bah, Donnarumma hein, à la place de Tenas hein, voilà je pense.
Il est encore suspendu je crois Donnarumma.
Il est encore suspendu Donnarumma.
Je crois qu'il a encore un match c'est son dernier match de suspension ouais alors, il est encore suspendu, c'est le dernier match de suspension.
Alors moi un des deux ça me va hein. Tenas ou Donnarumma ça me va.
Bon pour le coup je pense que ça sera Tenas et toi Alex quel type de compo de joueurs tu t'attends à voir sur le terrain et surtout bah, quel type de à quel score tu t'attends aussi?
Je pense justement ils vont faire tourner aussi un peu pas toute l'équipe mais comme disait Thibaut bah, Asensio il a une blessure donc il va pouvoir avoir du temps de jeu Ugarte, Mukiele aussi qui attendent que ça avoir leur chance et puis jouer et je pense que ça va être suffisant pour proposer du beau jeu. Après, pour le score, j'ai une petite affinité pour Lille via plein d'amis que j'ai sur place. Donc, j'ai pas envie de les donner défaitistes. Mais c'est un peu dur quand même de dire autre chose. S'il y a 1-0, allez, je vais être gentil. Je pense 1-0, but de Zahir Emery encore.
Ok, c'est raisonnable, c'est gentil. Thibaut, toi, tu vois quel score?
Moi, je vois 2-1 Paris, ouais. 2-1 Paris, 2-1 Paris, avec un peu de résistance lilloise quand même, mine de rien. Voilà.
Ouais, je vous suis sur la victoire de Paris et je vous suis aussi sur le 2-1 parce que Lille, c'est quand même une équipe qui prend très peu de buts à domicile, donc ça m'étonnerait que ce soit un carton. Non plus, ils sont quand même assez bons défensivement. C'est vrai que devant, ça pêche un peu, que ce soit Jonathan David, Zegrova ou Cabella. Devant, ils ont clairement des difficultés à marquer. Hein. Jonathan David, c'est 4 buts. Yazice 3 buts, Diakité 3 buts, Yoro 2, donc c'est vrai qu'ils ont du mal à marquer. Après la défense du PSG peut-être parfois fébrile, surtout si comme vous le dites on a un Mukiele à gauche, on sait que c'est pas forcément sa position idoine, donc voilà, il y a des petits décalages, donc ouais moi je partirai aussi sur un 2-1 hein, PSG pour ce week-end. Bah, nickel. Alors du coup, on va revenir rapidement sur les matchs de Ligue des Champions. Hein. Voilà, le PSG a fini, s'est qualifié, fini deuxième de sa poule, passant huitième. Lens a réussi à battre Séville. Et
et donc du coup finit troisième de sa poule et sera reversé en Europa League. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux prestations? Heureux, pas heureux? Dites-moi tout.
Moi je suis soulagé en fait, on va dire. Je suis assez soulagé que Paris se qualifie, parce que ça aurait été quand même on aurait quand même encore été un peu la risée de toute la France en vrai. Mais finalement Paris tient bon et Paris se qualifie. Lens aussi magnifique, Lens à la fin qui va mettre ce deuxième but avec Fulgini là, donc c'est pareil, magnifique, ils arrivent à se qualifier en Europa. Dommage qu'ils aient pas la deuxième place, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Parce qu'ils avaient superbement commencé les premiers matchs, hein, avec cette victoire contre Arsenal. Mais voilà, je suis très 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 content qu'au moins deux clubs, un en Europa et qu'un autre club français continue l'aventure Ligue des Champions. J'aimerais bien que Paris passe au moins ce tour-là. Je sais que ça va être difficile parce ils vont rencontrer un premier de poule, hein, et on sait que c'est quasiment que des gros. Si je me trompe pas, il y a la Real Sociedad qui est jouable sûrement peut-être pour Paris.
Ouais.
Voilà, donc on verra bien sur quelle équipe va tomber le PSG. Généralement, il y a jamais trop de chance au tirage pour le PSG, donc je m'attends plutôt à un gros, ouais. Donc à voir. Et pour Lens, j'espère qu'ils vont jouer à fond cette compétition et qu'ils sont très très loin.
Ouais, ouais, c'est le 18 le tirage, donc c'est lundi, ouais.
Ouais, c'est ça, lundi.
Et toi, Alex, t'en as pensé quoi de positif, là, pas positif?
Je rejoins Thibaut. Hein. Je rejoins Thibaut. Lens, magnifique, c'est incroyable ce qu'ils font. Bon, après, c'est seulement en Ligue Europa, seulement, hein, avec des guillemets. Donc, ouais, j'ai envie de les voir aller très très loin en Europe. Ils m'ont fait plaisir avec le jeu qu'ils ont proposé. Même si cette semaine, ils ont eu deux actions, deux buts, enfin deux actions, deux frappes, deux cadrés, deux buts. Mais bon, que demander de plus, hein. Il y a la victoire derrière.
Exactement.
Après, bon, Paris, désolé, hein, moi j'étais déçu. J'aurais bien ri si j'étais en Ligue Europa. Mais bon, c'est pas grave. Je les vois quand même aller assez loin. Enfin, j'espère quand même qu'ils iront assez loin. Parce que ça resterait normal
pour la France, pour la France et pour l'indice,
et pour la France. Et oui.
Et pour l'indice,
et,
oui.
Et pour Mbappé aussi, et ouais. Pour Ballon d'Or Mbappé l'année prochaine.
Enfin, vaut mieux pour vous, autre club de Ligue 1, que le PSG aille quand même assez loin. Voilà. Voilà, faut pas être naïf.
C'est quoi cette menace, Thibaut, là?
Non, c'est pas une menace, c'est juste un fait. C'est juste que si on va pas loin, notre indice UEFA risque de chuter très très fort et on risque de se retrouver seulement avec un club ou deux, enfin un club en Ligue des Champions, quoi. Et c'est pas ce que je veux, malheureusement. Mais bon, voilà. Donc vaut mieux que le PSG aille au bout. Ouais.
Ouais, parce que si l'année prochaine on est qualifié, si je me trompe pas, si on passe devant les Pays-Bas, on en a quatre. Et parmi les quatre, donc il y en a un qui passe les barrages. Donc ça ferait trois, donc un en barrage, ce serait
ça, ça
pas
serait
mal.
Parfait. Ça serait parfait. Ouais.
Et je pense qu'on peut pas passer devant les Pays-Bas vu les prestations qu'ils font.
Oui, et même en Europa, je pense qu'on peut passer devant les Pays-Bas, oui. Avec Marseille, Lens qui arrive en Europa, on a quand même de quoi faire. On a quand même de
quoi
aller loin.
Quoi faire.
Oui.
Il y a de belles équipes. Bon, même si Toulouse en championnat, c'est pas top, en Europe, ils sont plutôt sympas. Donc non, il y a de quoi de faire. Il y a Rennes aussi. Ok, et deuxième sujet, hein, donc j'en avais parlé la semaine dernière avec Maxime et Steve, hein, on a vu que le problème de supporters, on a traité du problème de supporters la semaine dernière. Là, cette semaine, on a vu qu'il y avait eu un arrêté pour les supporters de Séville, finalement, qui a été levé, donc les Sévillans ont pu assister au match à Lens. On a vu que 5 nouveaux arrêtés ont été déposés pour des interdits de déplacement ce week-end, donc notamment pour les supporters du PSG, les supporters de Rennes à Toulouse, les supporters de Reims face au RC Lens, les supporters de Nice face au Havre et les supporters de Brest face à Nantes. Alors, Enfin, moi j'ai déjà donné mon avis la semaine dernière, hein. Je suis assez outré de voir que, au-delà des problèmes qui puissent exister au sein des clubs et des supporters, que les pouvoirs publics ne puissent pas prendre des actions adéquates pour encadrer les supporters, sachant que les JO notamment arrivent. On a vu qu'au PSG, il y a plus de 3 000 supporters qui ont été encadrés face au match contre Dortmund. Nous, on n'arrive pas à encadrer quelques centaines de supporters. Vous, quel est votre avis par rapport à cette situation qui existe, que ce soit des pouvoirs publics, des associations de supporters ou encore des clubs? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui a tort, qui a raison? Bref, qu'est-ce que vous... Ouais, dites-moi.
Moi, je trouve ça triste, moi. Vas-y, Thibaut, si tu veux.
Non, c'est très triste, c'est triste pour le football. C'est, enfin voilà, un match de foot, ça se vit avec les supporters. Déjà, moi, je suis déjà triste qu'il n'y ait pas même de fumigène. Moi, je me rappelle à l'époque quand je regardais la Ligue des Champions quand j'étais petit, il y avait toujours des fumigènes dans les derbies de Milan, les choses comme ça. Et il y avait moins d'interdictions. C'était, enfin, voilà, je comprends pas comment ça ne peut pas être encadré. C'est tout simple, faut juste encadrer les gens. Là, je reviens des États-Unis. Je suis allé voir un match de foot US, les Raiders contre les Kansas City, Kiev. Et tout était encadré. Je veux dire, mais ils coupaient même les routes. Enfin, ils bloquaient les routes et les gens pouvaient aller au stade tranquillement. Il n'y avait pas d'animosité, rien. Tout se passait bien. Et il n'y a qu'en France où tu vois des trucs, enfin, où les supporters n'ont pas le droit d'y aller. Enfin, moi, je trouve ça un peu. On dirait c'est des gens qui font ces lois-là, qui donnent qui connaissent pas le foot ou l'envers du décor du football, tu sais, qui font ces lois-là. Donc, mais moi, je trouve ça triste. Et comme tu as dit, il y a les JO qui arrivent là en 2000, voilà, bientôt là, cet été. Et c'est plus, je sais plus qui disait ça, c'était Frank Hayes, qu'il avait très peur pour les JO. Donc, je trouve ça un peu abusé quand même, qu'il y ait plein d'interdictions de stades partout, même si bon, on voit des cas de violence aussi un peu partout, en Turquie, en Turquie, en France, forcément, le match OM Lyon. Voilà, enfin, mais bon, si c'est bien encadré, je vois pas pourquoi enfin, il y aurait des débordements. Il y a plein de matchs où ça se passe très bien. Et voilà, le foot, ça reste une fête et il faut que ça le reste. Faut pas que ça devienne, voilà, l'anarchie, choses comme ça. Voilà.
Ok,
Voilà,
toi,
justement.
Alex.
Voilà, justement, tu vas pas me dire que les supporters brestois vont venir à Nantes pour tout casser.
Ouais, voilà.
Il y a presque aucune animosité entre les deux clubs. Bon, après, oui, il y a juste le petit discours Bretagne ou pas Bretagne, et c'est tout.
Oui,
Les
Bretagne, c'est ça.
supporters, oui, voilà. Donc après, oui, je comprends juste que bon, les forces de l'ordre veulent s'assurer que tout se passe bien parce qu'ils ont peur des JO, ils ont peur de ces foules, etc. Ça s'était mal passé pour la finale avec les champions il y a quelques années. Et je pense qu'ils veulent juste éviter à tout prix de retrouver des problèmes avant les JO. Pour pas avoir de mauvaises images, pour pas avoir de mauvaises publicités
Mais c'est dommage
à
parce que
l'étranger.
ça fait partie
Mais
du
c'est
ça fait
dommage,
partie
oui.
du
Bah oui.
folklore, ça fait partie du folklore
Et
et c'est dommage qu'on soit privé de ça. Voilà.
oui, je suis complètement d'accord. Maintenant, c'est même plus que du sport. Maintenant, c'est politique, c'est plus du foot. Voilà,
tout ce que je
c'est
déteste.
triste. Voilà.
Ok, puisque c'est vrai qu'on sait tous que le méchant supporter rémois qui va aller à Lens va tout casser et tout brûler.
Oui, bien sûr.
En tout cas, sur ces belles paroles, messieurs, merci de m'avoir accordé un peu de temps pour participer à ce podcast entre deux voyages. Hein, comme je vous l'ai
Avec
dit, hein,
plaisir.
j'ai que des. Ces deux mecs-là, là, ils font que voyager. Ils sont jamais là. Ils font le tour du monde. Ils invitent pas les copains en plus. Donc,
C'est des légendes, ça, c'est des légendes.
Oh, qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai invité plusieurs fois en Pologne.
ouais, c'est vrai,
Reviens.
c'est vrai, c'est vrai. Bon, dans tous les cas, merci monsieur d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous les auditeurs de nous écouter. J'espère qu'on vous a aidé à vous faire une meilleure idée des deux matchs dont on a pu parler. On vous souhaite un bon week-end de Ligue 1. On espère qu'il y aura du spectacle, des buts. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram, ou encore nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts tels que Spotify, Apple Music. On est partout. Donc surtout, n'hésitez pas. Dans tous les cas, on vous souhaite un bon week-end. Et, ouais, et on vous souhaite un très bon week-end de foot dans le meilleur championnat d'Europe, du monde et bien sûr de la galaxie.
Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.